chers amis, bonjour. Vous êtes donc sur FM+, dans l'émission du matin. Et aujourd'hui, donc c'est Jean-François Martinez. Aujourd'hui, on va parler avec Madame Bernadas, qui est une responsable de l'association UNAFAM. Alors, UNAFAM, Union Nationale des Familles et Amis des Malades ou Handicapés Psychiques. Madame Bernadas, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous avoir à l'antenne.
Et merci de nous accueillir. Je suis toujours contente quand je peux parler d'une femme.
Oui.
Et alors, je corrige tout de suite, c'est Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Souffrant de Troubles Psy ou Handicapés Psychiques, parce que parfois, nous avons des copains, des colocs, de personnes qui ont un problème psychique
D'accord.
qui viennent nous voir.
Mais bien sûr. Alors, c'est une association qui est départementale avec plusieurs assises dans le département. Montpellier, Béziers.
7.
Béziers 7, oui.
7, le dernier... Le lieu qui a ouvert, c'est à 7, oui. Et on a 3 lieux d'accueil maintenant sur le département.
Plus de 58 000 à peu près personnes qui sont accueillies.
Alors ça, c'est,
sur,
c'est au niveau national. Hein.
Au niveau national.
Ce que je voulais donner, c'est des chiffres au niveau national. On a à peu près entre 30 et 50 accueils par mois. Parfois plus, parfois moins. Mais bon, voilà, ça donne à peu près une moyenne.
Alors... La prérequis qu'il faut pour les bénévoles de l'association, c'est d'avoir un proche.
Oui, tout à fait.
Concerné.
Tout à fait. Par la maladie.
Par cette maladie.
Oui.
Voilà. Pourquoi ? Alors, pourquoi cette prérequis ?
Alors, c'est tout simple. Tout simplement parce que dans l'association, c'est une possibilité de pouvoir être en compagnie d'autres personnes. Alors, on appelle ça les pairs aidants. C'est-à-dire que les proches des personnes qui ont un problème psy, ce n'est pas toujours une maladie, c'est parfois tout simplement un trouble parce qu'on est en amont d'une maladie mais qu'on n'en sait rien. Ça permet d'aller voir l'UNAFAM et à l'UNAFAM, les bénévoles sont des personnes qui ont quelqu'un dans leur famille, un proche. Alors ça peut être le père, ça peut être le conjoint, ça peut être un enfant. Parfois maintenant, on a des petits-enfants qui sont concernés par un trouble psy.
D'accord.
Voilà. Et les bénévoles sont tous... formés, ça on y tient énormément, pour être dans une vraie relation d'écoute, d'accueil, de soutien. Ils sont formés d'abord en observant comment se passe un entretien d'accueil, et puis après en se formant avec la UNAFAM nationale.
D'accord, donc c'est pas la peine d'être, on va dire, de travailler dans le monde de la psychiatrie.
Ah non, surtout pas.
Hein,
surtout pas. Oui.
Avec un œil neuf, voilà, c'est ça ?
Avec un œil
différent.
On laisse aux professionnels leur boulot de professionnel. Surtout pas des professionnels de la psy, parce qu'ils ont leur job à faire et que nous, on est vraiment quelqu'un de proche de la personne concernée par la maladie psy.
Alors, tout à l'heure, je parlais de 58 000 personnes à peu près, sur le plan national qui étaient donc accueillies chez vous. Alors, vous accueillez quel genre de personnes ? Déjà, l'âge ? À partir de 16 ans, à partir de 18 ans, jusqu'à la fin ?
Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, je précise, avant de faire un accueil au niveau du local, on a ce qu'on appelle une permanence téléphonique. Les bénévoles prennent le téléphone à tour de rôle, on change toutes les semaines. On fait un petit entretien de quelques questions, pour être un peu plus au clair de la demande précise de la personne. Et après, on propose un accueil sur le local.
D'accord.
Alors, je le donne tout de suite l'adresse. Hein, 356 rue Ferdinand de Lesseps, à côté de la station de tramway Saint-Martin.
Non, c'est ça. C'est à côté de l'ancien centre de tri de Montpellier, le centre de tri postal. Oui, j'y ai travaillé quelques années, donc je le
sais. Je connais pas.
Et c'est à côté de la voie rapide, grosso modo. De la voie rapide,
c'est ça,
voilà,
exactement.
C'est ça, hein,
ouais.
Dans le quartier Saint-Martin. Alors, donc, vous accueillez des personnes jeunes, des personnes moins jeunes. D'abord, donc, un contact téléphonique, pas de contact physique d'entrée.
Contact téléphonique d'abord.
Ça vous permet un peu, après, de sélectionner en fonction du bénévole qui va accueillir la personne.
On sélectionne, c'est surtout parce que, comme l'UNAFAM, en fait, on en entend de plus en plus parler. Les personnes concernées par le trouble psy peuvent nous appeler. Et en fait, on ne leur donne pas un rendez-vous à elles. On leur dit, eh oui, nous sommes pour les familles et les amis, pour tous les proches de la personne concernée. Donc, par contre, on peut réorienter la personne concernée par le trouble psy. soit sur une association, soit sur un CMP, un centre médico-psychologique, etc. Enfin bon, voilà. On donne les conseils. Mais donc, ces personnes-là, on ne va pas les accueillir. Donc, il faut vraiment qu'à la permanence téléphonique, ce soit clair.
Sélectionner.
Enfin, moi, je ne dis pas sélectionner.
Trier.
On n'est pas des professionnels, justement,
oui.
de l'écoute
oui.
des personnes ouais. concernées. Donc, on renvoie sur le milieu professionnel.
D'accord. Ces personnes qui vous téléphonent, elles ont eu vos coordonnées ou elles vous téléphonent parce qu'elles ont vu un ami, elles ont vu leur docteur, elles ont vu qui ?
Alors, sur... On leur fait préciser quand ils viennent nous voir, justement.
L'origine.
Ouais, l'origine.
Oui.
Ça peut être, comme vous, une émission radio. Ça peut être parce que à l'hôpital ou à la clinique, on leur a dit, il faudrait aller voir une infâme parce que la maladie impacte sur vous. Ça peut être effectivement de bouche à oreille. Voilà.
D'accord. Vous accueillez quel type de pathologie de pathologie, oui. De gens qui ont, on va dire, des problèmes. Parce que vous me parlez de problèmes psychiatriques. Moi qui ne suis pas dans ce domaine-là,
ouais.
c'est quoi d'abord le trouble psychiatrique ? Qu'est-ce que ça comprend ?
Alors, je vais faire la distinction entre la maladie psychiatrique et le trouble psychique.
Oui.
Vous avez des adolescents qui sont suivis. Des enfants, des adolescents sont a priori suivis en pédopsychiatrie. Donc il y a un cursus au niveau de la psychiatrie. Et déjà des associations de parents pour ces enfants et ces adolescents. Par contre, la pédopsychiatrie, à partir de 15 ans, ça bascule dans ce qu'on appelle la psychiatrie adulte.
Mmh. À partir de, vous dites ?
15 ans.
D'accord.
Ouais.
On est considéré comme adulte dans cette pathologie-là.
Ouais. Et d'accord. Donc, parce qu'en fait, c'est à peu près l'âge où, au niveau de l'adolescence, il y a, on va dire, un remue-ménage chez l'adolescent. Qui est normal. Et faire le distinguo entre la crise d'adolescence et puis une entrée en trouble psychique, vous avez des professionnels qui savent faire le distinguo, mais nous, on peut accueillir donc les proches, que ce soit les parents, que ce soit un frère ou une sœur, à partir de cet âge-là. Et dans les troubles psychiques, vous avez de tout. Ça peut être un trouble anxieux. Alors quand je dis trouble anxieux, ça peut être des TOC, hein.
Mmh, oui.
Des troubles obsessionnels compulsifs, ça peut être des crises de panique, ça peut être des moments de dépression, mais passagers.
Est-ce qu'il y a beaucoup de dépression chez les jeunes ?
Il y en a beaucoup en ce moment.
Beaucoup.
Mais là, je parle de la dépression légère,
d'accord.
qui est due à un événement, à quelque chose qui ne va pas rester. Puis après, vous avez ce qui peut être beaucoup plus impactant et beaucoup plus lourd, qui est l'ordre de la dépression un peu plus sévère. Vous avez les troubles bipolaires, vous avez l'entrée en schizophrénie. Alors, quand je dis entrée en schizophrénie, parce que tout ça, ça correspond à peu près à cette tranche-là, à cette tranche d'âge-là. Mais ça veut dire que les familles que nous recevons, parfois, nous demandent des conseils par rapport à, justement, cette difficulté à communiquer avec leurs jeunes. Et nous, on est là, justement, pour... D'abord écouter dans la situation dans laquelle ils sont, puis ensuite les soutenir, puis les accompagner et leur proposer éventuellement des journées d'information, de sensibilisation aux troubles psy. Et puis, éventuellement aussi, des journées de formation, parce qu'on a des journées qui s'appellent « Comment mieux communiquer avec son proche souffrant de schizophrénie ?»« Mieux accompagner son proche souffrant de troubles bipolaires ?»« Une journée sur les troubles anxieux ?» Voilà.
Donc l'écoute est très importante
et
fondamentale
oui.
pour vous. Tout à l'heure, vous parliez de formation. Donc, ce sont des formations qui sont faites donc, aux personnes qui vont écouter.
Tout à fait, qui vont être accueillants.
Qui vont être accueillants, voilà. C'est une formation qui dure...
Qui a plusieurs
modules.
Qui est sur un grand week-end.
Un grand week-end.
Ouais, vendredi, samedi, dimanche. Ouais.
D'accord. Donc, toute personne qui a envie de faire donc, cette activité, peut le faire, il n'y a pas de restriction.
Il n'y a aucune restriction.
Réussir bien sûr la formation, ça nous en sommes convaincus.
Être
mais
voilà.
Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de prérequis.
Ah bah non.
D'accord.
Après, c'est aussi, parce que là, c'est autre chose, c'est nous, les bénévoles formés, confirmés, prendre le soin d'accueillir l'accueillant.
Mmh. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes infirmière en psychiatrie, hein, vous.
Je ne sais pas si on l'a dit.
Non, on ne l'a pas dit. Je vous ai présenté, mais je n'ai pas dit que vous étiez infirmière en psychiatrie.
Oui. Je sais pas
tout,
si ça...
vous avez fait tout votre cursus dans la psychiatrie ou vous avez basculé?
Non, pas du tout. Moi, personnellement, j'ai travaillé en région parisienne en gastro, en cardio, en maternité. Ouais. Voilà, j'ai fait pas mal de services et c'est quand je suis arrivée sur Montpellier qu'on m'a demandé ce que je voulais faire et il y avait des départs de personnel à la retraite et j'ai donc accepté d'aller en psychiatrie. Mmh. Ce qui m'a énormément servi puisque moi-même, hein, c'est pour ça qu'on est bénévole à l'UNAFAM et qu'on est à l'UNAFAM, même tout simplement adhérent, c'est que moi, dans ma famille, j'ai des personnes qui souffrent de troubles psy. Et donc, dans mon parcours, à un moment donné, je me suis dit, si je peux aider, je continue à aider. Après la retraite, je vais à l'UNAFAM. Et voilà.
D'accord.
Et donc, les dernières années, c'était en psychiatrie avec des adolescents, jeunes adultes.
D'accord. Qu'est-ce que c'est que vous avez appris, justement, au contact de ces jeunes quand vous étiez donc en activité?
C'est que l'on peut, très tôt, puisqu'ils étaient 15-25 ans, n'est-ce pas?
15-25 ans.
Et oui. C'est qu'on peut, si on est en capacité, alors là, je parle des professionnels, en capacité d'écouter, d'accompagner, de soutenir, de mettre en place tout ce qu'il faut, vraiment être dans ce qu'on appelle maintenant le rétablissement et la réhabilitation. C'est-à-dire qu'on peut avoir une maladie impactante, comme la schizophrénie. Mais si on a les bons moyens pour se faire soutenir, pour comprendre où on en est dans ses propres symptômes, eh ben, on fait au mieux et on arrive à poursuivre son cheminement vers une vie de réinsertion dans la société.
On peut avoir cette maladie même quand on est jeune?
Mais bien sûr.
D'accord.
Oui.
Et ça, c'est dû à quoi? C'est quoi les symptômes de cette maladie? Pourquoi on a... Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis là pour essayer de comprendre, de faire comprendre à nos auditeurs comment on en arrive là quand on est jeune. Alors, je peux peut-être comprendre, alors, je parle sous votre contrôle, Madame Bernardes. Je peux comprendre que peut-être pour quelqu'un de plus âgé qui a connu des hauts, qui a connu des bas, qui a connu des échecs, on peut peut-être avoir ces maladies-là. Mais quand on est jeune et qu'on rentre même pas dans la vie professionnelle, qu'on n'a pas beaucoup... De problèmes particuliers. Hein. Comment on en arrive à avoir cette maladie-là?
Ah, vous me questionnez sur une question professionnelle, ce qui est pas pour ça que je suis venue. Mais si vous voulez...
Mais c'est intéressant. Votre expertise est très intéressante.
Je vais quand même développer, c'est que ce que l'on sait maintenant, c'est qu'il y a de ce qu'on appelle un tiers de vulnérabilité génétique. Voilà. Mais
pour,
le reste...
Pour toute personne.
Pour les, si vous voulez, puisque j'ai parlé de ma famille, il y a des personnes qui ont un trouble psy, je sais que mes enfants peuvent être porteurs d'une vulnérabilité génétique. Et la question, c'est comment je vais aider, éduquer mes enfants, leur parler justement sans stigmatiser la maladie, en leur disant, voilà, on fait de la prévention. Donc, les deux autres tiers, c'est tout ce qui va être dans l'ordre des événements de la vie. Bon, quand je parle des événements de la vie, vous avez des jeunes qui subissent des traumatismes, vous avez des jeunes qui sont harcelés, vous avez des jeunes qui vivent dans la rue, etc. Et donc ça, c'est des choses qui vont
être des facteurs
supplémentaires, pas amplifiés.
D'accord.
Des facteurs supplémentaires. D'accord. Après, vous avez des jeunes qui ont un potentiel de résilience, qui vont arriver à cheminer en se trouvant le bon professionnel, se faire suivre, etc. Et qui ne vont pas déclencher la pathologie. Mais vous avez des jeunes qui sont... pas en cette capacité de trouver tout seul les professionnels. Voilà. Et nous, au niveau, parce que je reviens à ce pourquoi je suis à l'UNAFAM, quand on est dans ces entretiens d'accueil, dans cette écoute avec les familles, on est maintenant en capacité de leur dire, mais effectivement, par rapport à votre jeune, puisque là, on vient de parler des jeunes, on a ce qu'il faut, donc on les oriente. Pour le jeune, vers les bons professionnels, puisqu'il y a ce qu'il faut là. Vous avez sur le CHU maintenant ce qu'on appelle le C2R, c'est le centre de réhabilitation et de rétablissement, qui accueille les jeunes de moins de 30 ans.
D'accord.
Et sur place, vous avez une équipe dédiée pour eux.
Vous dites sur place.
Sur place, au CHU.
Au C2R. D'accord.
C2R, c'est le centre de réhabilitation et de rétablissement. Et dans cette équipe, vous avez même ce qu'on appelle... une père aidante, c'est une jeune femme qui a un trouble psy et qui est elle-même en capacité, après son master, d'accompagner les jeunes. Je crois qu'à un moment donné, il faut que tout le monde puisse entendre qu'on va de plus en plus vers une déstigmatisation des troubles psy. J'allais dire, vous avez des maladies psychiatriques qui sont des maladies chroniques. On ne peut pas forcément en guérir. Mais on va dire...
On peut atténuer.
Non, je pense à l'idée de... Le diabète, c'est une maladie chronique. On ne peut pas en guérir.
Oui.
Mais on peut faire tout ce qu'il faut pour ne pas en être tout le temps malade. Voilà. Pour moi, c'est important. En plus, en tant qu'infirmière, je disais à un moment donné, on ne parlait pas du sida à l'époque. C'était tabou. Ben maintenant, il faut faire cesser le tabou. À un moment donné, on ne parlait pas du cancer. On disait, monsieur Intel est décédé d'une maladie longue et douloureuse. Maintenant, on dit, il est mort d'un cancer.
Vous avez entièrement
raison. On va faire la même chose.
Il y a 40 ans de ça, on faisait un amalgame fantastique entre toutes les maladies du cerveau. Moi, je me rappelle, je suis montpelliérain, et quand j'étais petit, et quand on parlait de ça, on disait les aliénés, donc route de Gange.
C'est tout. Voilà, exactement.
Voilà, c'était ça. Or, c'est vrai que, comme vous dites, pour le diabète et pour d'autres maladies, tout a évolué. On a un peu défréné tout ça. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Alors, on va revenir après sur les groupes de travail. Donc, on est en écoute sur des gens jeunes que vous envoyez sur ce service du CHU, et pour les personnes un peu plus âgées. C'est pareil, vous drivez sur le CHU. Alors, où il y a plusieurs choses.
Non, pour les personnes concernées, donc, si vous voulez, moi je tiens à ce que l'on dise que dans l'entretien d'accueil, quand la personne vient, justement, la première chose à faire, c'est accueillir l'entretien d'accueil, c'est vraiment être à l'écoute. C'est-à-dire qu'on ne voit pas se centrer sur la personne concernée par la maladie. On va se centrer sur la personne qui vient. Si elle vient en disant « je ne peux plus, je suis débordée, etc. », peut-être qu'il va falloir du temps pour cheminer et on va proposer un deuxième entretien ou un troisième entretien pour qu'elle puisse, elle, se rendre compte de ses propres capacités à faire face à la situation, lui donner éventuellement des conseils pour être dans la communication, ne pas perdre le lien avec la personne qui a une maladie psy ou un trouble psychique. Voilà. Hein, moi, je me sens vraiment, là, je reviens, si vous voulez, à notre cœur de mission de l'UNAFAM. C'est ça. Puis après, effectivement, s'il y a des questions très précises par rapport au suivi de la personne concernée par la maladie psy, on peut donner des conseils parce qu'on sait comment orienter.
Alors, vous parlez des groupes de travail.
Oui.
Comment ça se présente, les groupes de travail ? Vous faites des groupes de travail d'après ce que...
Moi, je parle des groupes. C'est des formations.
Des formations.
Des formations. On propose des formations aux personnes qui sont donc touchées, impactées par la maladie d'un proche, de venir à des journées de formation ou de sensibilisation. Donc, effectivement...
Alors, c'est quoi une journée de formation ?
Par exemple, on a une journée de sensibilisation aux troubles psy.
Oui.
C'est très généraliste.
Oui.
On a une psychologue qui vient expliquer ce que sont les maladies psy. Ça, c'est sur le matin. Et l'après-midi, on donne des informations sur tout ce qui existe en termes de soutien. Les assistantes sociales, le CCAS, les CMP. Alors, j'ai beaucoup de signes, mais...
Allez-y.
Centre médico-psy, les unités qui existent. Et maintenant, sur l'hôpital, il y a même ce qu'on appelle une équipe qui s'appelle ARIA.
On en parlera tout à l'heure, oui.
Voilà. Donc, voilà. Tout ça, c'est dans cette journée. Sur l'année 2024, on a fait deux journées d'information sur les troubles psy, mais c'est très généraliste. Après, on a eu aussi deux journées de formation qui s'appellent « Mieux accompagner son proche souffrant de schizophrénie ». Et c'est pareil. Donc, en fait, on demande aux gens qui sont justement impactés par la schizophrénie de leurs proches, si ça leur semble... D'abord, s'ils sont déjà prêts à venir à la formation, parce qu'il va falloir à un moment donné qu'ils expriment eux-mêmes ce qu'ils vivent dans la situation, ce qui les impacte, et qu'ils puissent après tout doucement se défaire grâce à tout ce qu'on peut avoir développé au cours de la journée, se défaire de ce poids pour être plus en capacité d'abord d'être mieux, eux, d'être plus accompagnants dans la durée par rapport à leur proche qui est touché par la maladie. Et voilà. L'essentiel de la femme, c'est d'être dans l'accompagnant, le soutien, et de pouvoir dire aux gens, ben voilà, là, vous êtes mieux, et donc vous allez mieux accompagner votre proche qui a un problème.
Très bien. Alors, on va faire une petite pause musicale. On reviendra après avec Madame Bernardas sur tout ce que vous faites concernant l'une femme. Alors, vous allez nous présenter, puisque c'est votre choix musical, qu'est-ce que c'est que vous nous proposez tout à l'heure?
Bon, comme j'ai un certain âge, une chanson.
Oui.
Qui veut dire, voilà le soleil qui vient, et ça c'est important.
Et c'est des... Et quel groupe?
C'est les Beatles.
Voilà, les Beatles. Voilà, on est sur FM+, on écoute les Beatles, et on revient, et on parlera avec Madame Bernardas, donc de Luna Femme. Voilà, à tout à l'heure.
Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun.
Voilà, après cette très 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 belle chanson des Beatles, qui nous rappelle quand même aussi notre jeunesse pour certaines personnes, je ne parle que pour moi. On revient donc avec Madame Bernardas sur donc, l'association de l'UNA Femme. Donc, on était sur de la formation et sur de l'information. Donc, on informe ces personnes-là, ces jeunes et ces moins jeunes, et puis donc, en fonction de, aussi de leur parcours, de leur récit, on les oriente sur, on va dire, on va schématiser un petit peu, sur les services du CHU.
Non, alors...
Où vous arrivez, vous, est-ce que vous arrivez, vous, à régler, entre guillemets, et à suivre certaines personnes sans qu'elles partent sur des services médicaux?
Alors, je reprécise, parce que...
Allez-y, reprécisez.
À l'UNA Femme, c'est toujours les familles.
Oui, on est d'accord.
Bon. Donc, les formations s'adressent aux familles, pas aux personnes concernées par la maladie.
D'accord, les aidants.
Au cours de ces formations, effectivement, en fonction des questions qui peuvent émerger de leur expression, on va orienter en fonction de ce qu'ils nous disent. Et bon, la psychologue, en plus, est là pour les formations. Hein. Je rappelle à chaque fois qu'on ne fait pas ça tout seul en tant que bénévole.
Absolument.
On s'appuie sur quelqu'un qui est salarié par l'association. Et donc, on a parfois, effectivement, à donner des conseils pour réorienter les personnes.
D'accord.
Concernées, elles, par la maladie psy.
D'accord.
Bon. Après, moi, je pense à des exemples très concrets, si ça peut être intéressant que vos auditeurs puissent entendre ça.
Je vous en prie.
Il y a effectivement le CHU. Vous avez aussi, parce que le suivi en libéral existe beaucoup pour les personnes impactées par la maladie psy, de pouvoir dire, eh bien, peut-être que une consultation psychiatrique, ça ne suffit pas. Peut-être que votre enfant ou votre proche a besoin aussi d'un suivi au quotidien, faire intervenir un travailleur social. Il y a aussi, moi je pense aussi à des questions qui viennent facilement. Et comment je ferai plus tard quand je ne serai plus là ? Eh bien voilà, on donne donc des conseils par rapport à ça, par rapport à suivi, par rapport à la mise en place, éventuellement de tutelle, de curatelle. Ça, ce sont des mesures qui existent déjà, il faut que les gens le sachent. Il y a aussi maintenant la question du, par exemple, des logements. Hein, moi, je ne peux pas garder mon enfant chez moi de façon éternelle. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Donc, on va en parler dans ces journées. C'est en fonction de ce que peuvent exprimer les gens qu'on va pouvoir aborder toutes ces questions-là.
D'accord. Donc, vous êtes en contact avec peut-être les bailleurs sociaux ? Non,
pour trouver pas spécialement. Par contre, le fait de donner la liste de tout ce qui peut exister, les gens peuvent les solliciter.
D'accord.
Après, je précise que je coordonne en tant que bénévole UNAFAM un groupe de parole qui a lieu le jeudi après-midi. Donc, c'est la psychologue qui anime le groupe de parole, mais c'est pareil, en fonction des questions qui sont posées. Parfois, je peux aussi donner des bons conseils. Du style, y a-t-il sur votre lieu de domicile, il y a appel à faire au CCAS, à faire, etc.
Mais des groupes de parole pour les aidants ou pour le malade ?
Non, toujours pour les aidants.
Toujours pour les aidants.
Oui, UNAFAM, on se tient vraiment à ça.
D'accord. Alors, on va parler, on parlait dans des journées d'information. Vous avez aussi, vous allez développer, vous continuez de développer des ateliers Prospect Famille. C'est quoi ça ?
Alors, les ateliers Prospect Famille, c'est des ateliers d'entraide. C'est une aide de pair à pair, c'est-à-dire qu'on est tous dedans, en train d'échanger pour pouvoir se soutenir, sortir de l'isolement, s'accompagner, trouver des solutions auprès des uns et des autres. Voilà, on échange nos expériences, ça permet de se rendre compte que souvent, ce que disent les gens, je suis tout seul dans ma difficulté. Or, non. Non, on est là tous ensemble, on fait face ensemble à la difficulté. On construit ensemble les savoir-faire, les savoir-être. Et puis comme ça permet d'oser changer. J'allais dire, souvent j'utilise l'image, oser se décaler d'un tout petit angle pour ne pas être de façon frontale à la situation. C'est parfois voir les choses de façon un petit peu différente parce qu'on a échangé avec les autres. On peut prendre du recul par rapport à l'incidence de la maladie du proche sur notre propre vie. Et puis, on devient un peu plus efficace dans nos différentes façons de communiquer, dans nos stratégies pour faire face dans la durée. Et puis, ça permet, avec l'UNAFAM, de développer un réseau qui soutient. Et puis, ça renforce l'estime de soi quand on se rend compte que finalement, ce qu'on a pu échanger dans l'atelier, on est mieux avec son proche qui a un problème psy. Et lui, il le dit d'ailleurs. Souvent, le retour, c'est ça.
D'accord.
Ah, il m'a dit que ça allait mieux parce que moi, je vais mieux. Voilà.
Il vous reste 5 minutes d'émission.
Tout à fait.
En ce qui concerne justement développer ces ateliers, en quoi on peut les développer encore plus, ces ateliers que vous parliez là, de Prospect Famille ?
Alors, après, c'est nous, au niveau des bénévoles, est-ce qu'on est en capacité de pouvoir faire plusieurs ateliers Prospect ? Ça demande du temps, ça demande de l'engagement. Mais on a bon espoir parce qu'on vient de recevoir des nouveaux bénévoles. Donc, ils vont se former, ils vont être accompagnés, ils vont devenir accueillants. Et puis, peut-être qu'on pourra en faire plus des ateliers d'entraide prospect famille. Ça s'appelle atelier d'entraide prospect famille.
Je voudrais, avant donc de terminer l'émission, Je voudrais qu'on parle de la bipolarité.
Mm-hmm.
On entend parler de plus en plus.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup de gens qui disent, bah, lui, il est bipolaire sans savoir pourquoi.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que c'est exactement la bipolarité?
Alors, là, vous faites appel à plutôt mon côté professionnel.
Bien sûr,
la
absolument.
La bipolarité, c'est dans le terme bipole. Ce sont des personnes qui présentent à un moment donné des phases de dépression, puis des phases de ce qu'on appelle de manie, c'est-à-dire d'excitation.
D'accord.
Donc, vous pouvez, dans la phase d'excitation, avoir des grandes idées du style, je sais pas moi, je vais te dire un truc, je serai président de la République, je vais m'acheter le château de Versailles, etc. etc. Enfin, des idées de grandeur.
Des idées de grandeur.
Ça peut être des idées de grandeur.
D'accord, ouais.
Ça peut être des idées, ça peut être des achats, mais...
D'une manière démentielle.
De manière démentielle.
Mm-hmm.
Acheter, acheter, acheter. Ça peut être se mettre en difficulté parce qu'on se sent tout puissant.
Oui.
Une jeune qui va... je dis une jeune parce que ça fait partie de mon propre expérience. Une jeune qui va se mettre sur l'autoroute en se disant « Je suis toute puissante, donc il ne m'arrivera rien. » Voilà. Puis la phase dépressive, tout le monde sait ce que c'est. Quelqu'un au fond du trou qui ne peut plus s'en sortir. Et puis, même si on veut le stimuler, ça ne suffit pas. Ça n'a rien à voir avec la paresse ou le « j'ai pas envie ». C'est « je suis au fond du trou » et là, il faut de l'aide aussi.
Et là, comment on remonte justement sur cette pathologie?
Eh bien, il faut aller voir les bons professionnels qui savent faire pour donner les traitements. Et il faut être... Quand on a une maladie telle que le trouble bipolaire, se dire qu'il faut du temps, parce qu'il faut d'abord que le médicament soit le bon, parce que n'importe quel traitement n'est pas forcément bon pour tout le monde. Et puis, ben justement, se faire accompagner, soutenir par son proche,
par sa famille, etc. Est-ce qu'on peut se soigner?
Bien sûr.
De la bipolarité.
Mais oui.
Très bien.
Moi, je connais des gens qui ont un trouble bipolaire, mais qui vont très bien.
Très bien.
Mais ouais. Et je connais des gens qui ont une schizophrénie qui vont très bien.
Ben c'est parfait. Alors, 2 minutes d'émission, je voudrais qu'on termine par l'avenir de votre association. Apparemment, elle est bonne puisque vous avez recruté et vous allez recruter des bénévoles. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de votre association, Madame Bernardas?
Eh bien, nous sommes en train de développer justement... Alors, on a parlé pour l'année 2025, l'année de la santé mentale. Donc, on est en plein dedans et au niveau national, parce que je répète, nous ne sommes pas tout seuls dans notre coin, on fait partie de l'association nationale, de réfléchir et de faire avancer, je vais dire à l'ancienne l'expression, faire avancer le Schmidblick, pour que le trouble psy, ce soit déstigmatisé, que de plus en plus, on puisse en parler et être vraiment accompagnant. Et pour ça, il faut des moyens.
Très bien.
Il faut des effectifs dans les services. Il faut des bons professionnels et il faut que les familles puissent être soutenues.
Ok, Madame Bernardas, on va terminer l'émission. Redites-nous exactement donc votre site. Vous êtes donc, alors le site, est-ce qu'on peut le citer?
Oui, bien sûr.
Allez-y.
Ben, c'est UNAFAM.
UNAFAM, d'accord. Vous êtes à Montpellier, c'est donc dans le quartier Saint-Martin.
Au 356 rue Ferdinand de Lesseps.
D'accord. L'écoute téléphonique, c'est tous les jours?
Ah ben, en ce moment, j'ai la permanence téléphonique, donc forcément, je ne peux pas répondre quand je suis ailleurs.
D'accord.
Mais sur l'accueil, c'est on vous répond dans les 24 heures. Donc moi, je rappelle les gens après. Et voilà. Et comme ça, au bout de quelques secondes ou minutes d'entretien, on a la capacité de pouvoir donner un rendez-vous.
Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Eh ben, merci de nous avoir accueillis.
Merci beaucoup. Je remercie donc mon ami Émile qui était à la technique, car nous, les animateurs, ben sans nos techniciens, on ne pourrait pas faire nos émissions. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Si l'on en parlait, mercredi prochain. Et on va parler politique, on va parler gestion et partage de l'eau avec M. Revol, le maire de Grabel. Voilà, très bon après-midi à tous et très bon week-end. Allez, à bientôt et toujours sur FM+. Au revoir.